Imaginez la scène, on l'a tous et toutes vécue, une fête d'anniversaire d'enfant, le bruit, les ballons, le sucre qui fuse. Et au milieu de ce chaos joyeux, on observe. Il y a les enfants qui plongent tête la première dans la mêlée, comme des poissons dans l'eau. Et puis il y a les autres, ceux qui restent agrippés à la jambe d'un parent, le regard un peu fuyant. Alors la question que beaucoup de parents se posent, elle est là. Où se termine la simple réserve et où commence, une angoisse qui paralyse?
C'est toute la question, en effet.
C'est précisément cette frontière, parfois très floue, qu'on va explorer aujourd'hui, la timidité chez l'enfant et surtout son basculement possible vers ce qu'on nomme la timidité maladive. Pour nous guider, on a une source unique, un article très fouillé publié aujourd'hui même, le 13 février 2026, sur le blog parental WeFam. Et ce texte, il a le mérite de proposer des stratégies très concrètes.
Oui, votre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer cette distinction. C'est crucial. Il ne s'agit pas du tout de juger un tempérament, mais de reconnaître une souffrance potentielle. On va extraire de cet article des outils pratiques et surtout une approche bienveillante. L'idée forte de la source, et on va y revenir, c'est pas de chercher à éradiquer la nature d'un enfant.
Non, bien sûr.
Mais plutôt de lui donner les clés pour que sa sensibilité, qui est une vraie richesse, ne devienne pas une prison.
Commençons par le commencement. L'article insiste sur un point qui semble évident, mais qui est fondamental. La timidité, ce n'est pas une maladie, c'est un trait de tempérament. L'auteur utilise une image assez parlante. Il décrit certains enfants comme des bulldozers sociaux, alors que d'autres ont besoin, d'un périmètre de sécurité. Mais alors, si c'est normal, à quel moment doit-on commencer à s'inquiéter?
C'est la question centrale. Et la source propose un critère de différenciation très clair, l'impact sur le quotidien.
L'impact sur le quotidien.
Exactement. Un enfant simplement timide, après, disons, ses 10 ou 15 minutes d'observation à la fête d'anniversaire, il finira probablement par se joindre à un petit groupe. L'enfant qui souffre d'anxiété sociale, lui, il est bloqué. La situation ne s'améliore pas avec le temps. Au contraire.
Ça peut même se manifester physiquement, non?
Tout à fait. L'article mentionne des maux de ventre, des nausées. L'enfant va développer des stratégies d'évitement systématiques. Il peut même rester complètement mutique à l'école.
Alors qu'il parle normalement à la maison.
Voilà. La différence, au fond, c'est pas la nature du sentiment, mais son intensité et ses conséquences. Le fait que ça devienne invalidant.
C'est très éclairant. En fait, ce n'est pas l'émotion elle-même le problème, mais le fait qu'elle l'empêche de vivre les expériences de son âge. Il y a d'ailleurs une citation dans l'article que j'ai trouvée percutante.
Ah oui, hein ?
La timidité simple est une préférence pour la tranquillité. L'anxiété sociale est une peur panique du jugement de l'autre. C'est vraiment là que tout bascule.
C'est exactement ça. Cette peur panique du jugement. Elle nous amène directement au rôle des parents. L'article qualifie ça de « vrai travail d'orfèvre ».
J'aime beaucoup l'expression.
Le but, ce n'est pas de transformer un introverti en extraverti. Ce serait une violence. Le but, c'est de lui donner des outils. C'est un équilibre très délicat entre, d'un côté, valider ses émotions.
Pour qu'il se sente compris.
Et de l'autre, éviter le piège de la surprotection, qui... paradoxalement, viendrait confirmer ses peurs.
Un travail d'orfèvre, oui, l'expression est bien choisie. Heureusement, l'article propose une approche structurée, en 5 stratégies. Ça change des conseils un peu clichés comme « n'aie pas peur ».
Qui ne servent à rien.
Voilà. Alors concrètement, par où on commence?
Alors, la première étape, selon la source, est la plus contre-intuitive. Il faut commencer par valider l'émotion.
C'est le premier conseil, donc. Valider sans surprotéger. L'article prend un exemple simple, dire bonjour à la boulangère. Pour certains enfants, c'est l'Everest.
Carrément.
La recommandation, c'est de mettre des mots. Dire par exemple, je vois que tu te sens impressionné, c'est normal parfois, on va rester un peu ici tous les deux. On nomme l'émotion, on la légitime.
C'est fondamental. En faisant ça, le message qu'on envoie, c'est je te vois. Je te comprends. Ce que tu ressens est acceptable. C'est la base de la sécurité affective.
Mais là, je vois un piège. En validant l'émotion, est-ce qu'on ne risque pas justement de la renforcer, de basculer dans la surprotection qui lui dirait « tu as raison d'avoir peur ».
C'est une excellente question et c'est tout le cœur de la difficulté. La source est très claire là-dessus. La surprotection, c'est quand le parent agit à la place de l'enfant.
D'accord.
Répondre systématiquement à sa place ou ne plus jamais aller au parc. Ça envoie un message terrible. Le monde est dangereux et pire, tu es incapable d'y faire face sans moi.
On pense protéger, mais on confirme l'insécurité.
Voilà. Valider, c'est être avec l'enfant dans son émotion. Surprotéger, c'est le retirer de la situation.
Je comprends. Il faut construire une sécurité intérieure, pas une bulle extérieure. Ce qui m'amène au deuxième conseil. faire de la maison un havre de paix.
Oui, le camp de base, c'est l'image de l'article. L'endroit où il recherche ses batteries sociales. Et pour ça, l'auteur avance trois piliers.
Lesquels ?
Premièrement, des routines claires et prévisibles. Pour un enfant anxieux, l'imprévu, c'est du stress. Savoir comment la journée va se dérouler, c'est très rassurant.
Ok, les routines. Et ensuite ?
Le deuxième, ce sont des petites responsabilités. Mettre la table, arroser une plante, des tâches simples qui lui donnent un sentiment de compétence. Il n'est pas juste l'enfant timide, il est aussi celui qui fait des choses importantes.
Ça nourrit l'estime de soi ?
Exactement. Et le troisième pilier, c'est de créer des moments de dialogue sans jugement, où il peut parler de ses craintes sans qu'on lui dise « mais non, c'est rien ».
C'est intéressant parce que ça dépasse la seule gestion de la timidité. On parle des fondations d'un environnement familial sain, en fait.
Complètement.
Et une fois que ce camp de base est bien solide, j'imagine qu'on peut commencer à faire des explorations ?
C'est exactement ça. C'est le troisième conseil, l'exposition progressive. La technique des petits pas.
On ne saute pas en parachute quand on a le vertige.
Voilà, c'est l'idée. La source propose même une sorte d'échelle de la réussite, très concrète. Niveau 1, inviter un seul ami très familier à la maison, sur son territoire.
D'accord.
Niveau 2, aller jouer chez ce même ami. Puis niveau 3, participer à une activité en tout petit groupe.
Et seulement après ?
Seulement après, on peut envisager le niveau 4, aller à une fête d'anniversaire, en restant près de lui au début.
C'est l'idée de découper la montagne en petites collines. Mais que se passe-t-il si l'enfant refuse même la toute première étape ? Si même inviter un seul ami, c'est trop.
L'élément crucial, et l'article insiste beaucoup dessus, c'est que l'enfant doit se sentir en contrôle. On construit l'échelle avec lui. S'il refuse la première étape, c'est qu'elle est encore trop haute.
Il faut la diviser encore.
Oui, l'étape n'est peut-être pas inviter un ami, mais passer un coup de fil de 5 minutes à cet ami. Ou même juste regarder une photo de cet ami en parlant. Le but est de trouver une première marche si petite qu'elle en devienne presque ridicule pour enclencher une dynamique de succès.
Et pour que ces succès soient bien perçus comme des victoires, ça nous amène au quatrième conseil, valoriser l'effort.
Absolument.
L'article explique que le cerveau d'un enfant anxieux a tendance à se focaliser sur le négatif. Le rôle du parent, c'est être un projecteur de positif. Mais comment on fait ça sans que ça sonne faux ?
Le secret, d'après la source, c'est d'être spécifique et de valoriser l'effort, pas juste le résultat. Un vague « c'est bien » n'a pas beaucoup d'impact.
Il faut un exemple concret ?
En revanche, dire « J'ai vu que tu as dit bonjour à la voisine. Je sais que ça t'a demandé du courage et je suis vraiment fier de l'effort que tu as fait. Ça, c'est puissant. »
Peu importe que le bonjour ait été un murmure.
Peu importe. Ce qui compte, c'est la tentative. On enseigne que la valeur est dans le courage d'essayer. Ça dédramatise l'échec.
Ce changement de focus est capital. Toutes ces stratégies, c'est ce qu'un parent peut faire avec son enfant. Mais qu'en est-il de ce que le parent est ?
On y arrive. C'est le cinquième conseil, l'apprentissage par l'exemple. C'est un classique, mais c'est essentiel. Les enfants sont des éponges.
Ils apprennent par mimétisme.
Toujours. Si les parents sont eux-mêmes anxieux en société, s'ils évitent les interactions, l'enfant intègre que le monde social est une menace. Il ne s'agit pas de devenir un bout en train.
Non, bien sûr, il faut rester authentique.
Mais de montrer, par des gestes simples, que le contact humain peut être une source de plaisir. Saluer un commerçant avec un sourire, échanger deux mots avec un voisin. Ces petites choses sont des leçons très puissantes.
En parallèle de ces cinq piliers, l'article liste aussi ce qu'il ne faut surtout pas faire. Les erreurs qu'on commet tous un peu en voulant bien faire.
Oui, la première, c'est de coller une étiquette. Dire devant l'enfant « Oh, lui, vous savez, il est timide ».
Ça l'enferme dans une case.
Exactement. Il l'entend, l'intègre et finit par se conformer à cette définition de lui-même. C'est une prophétie autoréalisatrice.
Une autre erreur, et celle-là est particulièrement cruelle d'après l'article, c'est la comparaison. Le fameux « regarde ton frère, lui il n'a pas peur ».
C'est terrible. Ça n'aide pas et ça attaque directement son estime de soi.
La source en mentionne deux autres.
Oui, forcer ou punir. L'obliger à faire un bisou, par exemple. C'est la pire des choses. Ça associe le contact social à une violation de son espace.
Et la dernière.
Un point plus subtil. Répondre systématiquement à sa place. Parfois, un enfant a besoin de 10 secondes de silence pour rassembler son courage. Pour un adulte, c'est long, mais en se précipitant, on lui vole l'opportunité d'y arriver seul.
Ces 10 secondes peuvent paraître une éternité. C'est vrai. Tous ces conseils sont précieux, mais parfois, ça ne suffit pas. À quel moment un parent doit-il se dire « là, on a besoin d'aide » ?
L'article définit des drapeaux rouges très clairs. Consulter un pédiatre ou un psychologue devient nécessaire si la timidité s'intensifie avec le temps au lieu de s'atténuer.
si ça ne s'améliore pas malgré les efforts.
Voilà. Si ça empêche totalement la scolarisation, si des symptômes physiques importants apparaissent, crise de panique, vomissement.
D'accord.
Un autre signe, c'est si l'enfant n'a aucun ami et qu'il exprime en souffrir. Et enfin, le plus spécifique, le mutisme sélectif. Il parle à la maison, mais est totalement muet à l'école.
Face à ça, il ne faut pas rester seul.
Non. Consulter n'est pas un aveu d'échec. Au contraire, c'est un acte parental responsable et aimant.
Si on devait donc rassembler tous les fils de cet article, le message principal, ce n'est pas de réparer un enfant ou de changer sa nature profonde.
Non, c'est tout à fait ça. C'est bien plus une philosophie de l'accompagnement, patient et progressif. Il s'agit de construire avec lui un environnement suffisamment sécurisant pour qu'il puisse, à son rythme, oser explorer.
Lui donner une boîte à outils, pas une nouvelle personnalité.
Exactement.
Et pour conclure, il y a un lien que la source établit, que je trouve particulièrement fort. C'est la connexion entre un quotidien familial organisé, presque prévisible, et la confiance en soi de l'enfant.
Oui, l'idée, c'est que la prévisibilité du quotidien réduit le stress ambiant. Quand un enfant sait à quoi s'attendre dans son camp de base, ça libère des ressources émotionnelles pour affronter les défis du monde extérieur.
C'est logique.
Et ça soulève une question intéressante qui dépasse largement le cadre de l'enfance, une question qu'on pourrait se poser à soi-même.
Laquelle ?
Dans quelle mesure est-ce que l'organisation et la clarté de notre propre vie d'adulte créent un environnement où, non seulement notre entourage, mais aussi nous-mêmes, on se sent suffisamment en sécurité pour oser, pour essayer et finalement pour grandir.